Nous allons maintenant démarrer nos discussions concernant les logiciels libres pour l'image et la vidéo avec nos deux invités, donc Géant Pagès, donc rebonjour Géant.
Bonjour.
Et Lionel Allorge, rebonjour Lionel.
Bonjour.
Alors on va d'abord commencer par un petit tour de table de présentation pour que vous puissiez vous présenter en détail aux personnes qui nous occupent. On va donc commencer par Géant Pagès. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît?
Donc moi je suis un des développeurs de GIMP. En ce moment, je suis engagé comme ingénieur au CNRS pour développer GIMP par un laboratoire qui s'appelle le laboratoire GREYC, GREYC. Voilà. Et je suis aussi membre d'une association, l'association LILA, L-I-L-A, et on promeut les logiciels libres pour les créations artistiques. Et on est aussi producteur d'un film d'animation.
Qui s'appelle ?
The Marmot. Voilà, c'est Z-E-M-A-R-M-O-T. C'est une blague parce que c'est de l'anglais, mais comme on est français, voilà.
On prononce le The avec le Z.
Voilà, exactement.
Ok, bon, on aura l'occasion de revenir sur ce projet-là aussi, sur tes activités à la fois bénévoles et professionnelles. Donc Lionel Allorge, bon, on se connaît depuis de nombreuses années, mais je te laisse quand même te présenter.
Voilà, donc moi je suis membre de l'April depuis l'an 2000, je crois. J'ai été membre du conseil d'administration pendant plusieurs années et j'ai été également président de l'April pendant 3 ans. Donc aujourd'hui je suis redevenu simple membre, on va dire. Et je m'intéresse depuis longtemps à tout ce qui est création audiovisuelle, donc notamment la photographie, mais aussi pour aujourd'hui la vidéo. Et donc, voilà, c'est l'occasion de venir parler un petit peu des outils que j'utilise, qui sont des outils libres.
Et tu es toujours membre, voire président de l'association Lune Rouge ?
Alors oui, on a monté avec des amis une petite association qui s'appelle Lune Rouge et qui a pour but de créer justement des choses autour de l'audiovisuel, dans le domaine notamment du fantastique, de la science-fiction, mais de manière... disons, très amateur. Hein. Le but, c'est de se faire plaisir, essentiellement.
Ah ben, c'est l'essentiel. Donc, Lune Rouge qui existe depuis peut-être 25 ou 30 ans.
Ah oui, oui, oui. Et depuis les années 80.
Ok. Ah ben, oui, encore plus que... Oui, 30 ans, oui, d'accord. Voire même plus. Donc, très bien. Alors, on va commencer donc d'abord par parler un petit peu. L'idée, c'est un peu de ne pas aborder évidemment tous les logiciels libres qui existent dans l'image et la vidéo, parce qu'il y en a beaucoup, mais de parler des principaux à la fois en termes de fonctionnalité, en termes éventuellement de manque. On parlera aussi dans une deuxième partie des modèles de développement et de modèles économiques de certains des projets, parce que les gens, des fois, utilisent des logiciels dont ils n'imaginent pas la façon dont ils sont financés. Et là, on a deux exemples assez différents, donc avec Blender côté vidéo, et GIMP côté image. Et on parlera évidemment aussi des façons de se mettre à ces outils de création image et vidéo, et des premières pistes que l'on peut proposer aux personnes qui nous écoutent. Alors déjà, on va commencer par les côté image. Donc quand on parle d'image et logiciel libre, on pense assez naturellement et assez rapidement à GIMP, qui est un logiciel libre donc pour créer des images, qui existe depuis, alors peut-être que je vais piéger Géant en demandant depuis combien de temps il existe, mais...
Je crois que c'est 96.
96, donc c'est... alors ça veut dire GIMP, ça veut dire GNU Image Manipulation Programme, donc c'est un programme de manipulation d'images, et qui est issu, entre guillemets, ou qui est chapeauté quelque part par le projet GNU, donc de Richard Stallman, un projet fondateur du logiciel.
Originalement, le G voulait dire général.
C'est vrai ?
C'est Stallman qui a demandé à ce qu'il change le nom.
D'accord, alors tu vois,
l'inverse, c'est peut-être les auteurs originaux qui ont demandé à Stallman s'ils pouvaient utiliser l'un des deux.
Alors je l'avoue que je ne me souvenais pas de ce point de détail. Alors GIMP, donc Géant, comme tu l'as dit en introduction, tu es développeur GIMP, alors à la fois développeur bénévole et puis aussi tu as donc aujourd'hui un travail dans un laboratoire de recherche pour travailler sur GIMP. Donc déjà, est-ce que tu peux nous parler de ces fonctionnalités de GIMP, de ce projet et de ses usages pour des personnes qui souvent vont plutôt penser dans le monde privateur à Photoshop notamment. Donc est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce projet GIMP ?
Donc GIMP, alors comme son nom l'indique, c'est vraiment un logiciel de manipulation d'images assez générique. Ce qui fait qu'on peut faire un peu tout. Alors il y a certains projets qui décident d'être plus spécialisés. Et dans GIMP, on peut faire, c'est vraiment, donc, beaucoup l'utiliser normalement pour la photographie, notamment. Il y a énormément de filtres, énormément de possibilités et d'outils, etc. Sinon, il y en a qui l'utilisent pour le dessin, pour le design. Il y a Il y a beaucoup de scientifiques aussi qui utilisent GIMP parce qu'il y a tout un système d'API, hein, de plugins, dont on peut faire des scripts et tout ça. Et bon, des fois, dans les rapports de bugs, il y a des gens qui arrivent avec. Moi, j'ai cette image 500 000 fois 500 000, parce que c'est, ils font, je ne sais pas ce qu'ils font, des trucs de recherche. Bon. Donc il y a un peu tout, il y a vraiment, on a, bon, il y a même des gens qui font du pixel art, il y a du bon, voilà, un peu de tout, c'est ça.
D'accord. Et par rapport à Photoshop, est-ce qu'on retrouve d'autres outils privateurs ou même d'autres outils logiciels, parce que j'ai l'impression qu'en termes de traitement d'image, en tout cas matriciel, GIMP est le principal logiciel libre qui existe, ou est-ce que je me trompe?
Oui, tout à fait. Parce qu'il est tellement vieux que c'est une histoire de d'ancienneté, en fait. Ça fait plus de 20 ans qu'il est là, donc. Oui, alors en fait, effectivement, on est tout typiquement sur le créneau de Photoshop. Alors même si certains croient qu'on essaie de copier Photoshop, ce qui n'est pas du tout le cas. Hein. D'ailleurs, moi, j'ai pas utilisé Photoshop depuis 20 ans, je sais pas trop. Non, peut-être pas 20 ans, mais. Je crois que la dernière fois que j'ai dû utiliser ça, c'était j'étais au lycée, donc c'est peut-être une vingtaine d'années. Mais c'est ce créneau-là du logiciel qui fait un peu tout. C'est un logiciel générique, pas spécialisé, effectivement. Ensuite, je pourrais, comme ça fait longtemps que je n'ai pu utiliser exactement, je ne pourrais pas comparer exactement les fonctionnalités. Je sais qu'il y a des choses qu'on n'a pas, qu'il y a dans Photoshop, mais je sais qu'il y a aussi l'inverse. Hein. Des fois, on lit régulièrement des... En fait, c'est souvent une histoire d'habitude. Quand on est habitué, il y a des gens qui... On lit régulièrement des retours de gens qui ont utilisé GIMP pendant 15 ans et un jour, ils se disent, on va essayer Photoshop. Et en fait, ils n'y arrivent pas et ils ne comprennent pas. Et ils sont aussi frustrés que quelqu'un qui sera très habitué à Photoshop. Voilà, donc je pense que c'est voilà.
Mais ça, c'est un point important dont tu parles et qui est finalement la force des habitudes, parce qu'au-delà de la capacité de ces logiciels, et c'est valable dans l'image, la vidéo, mais dans d'autres logiciels, hein, la bureautique ou autre, mais peut-être plus dans le traitement d'image d'ailleurs vidéo, parce que c'est peut-être un peu poil plus compliqué, on peut faire plus de choses, le fait que quelqu'un est habitué à un logiciel pour le faire changer, qu'il soit vers un logiciel libre ou l'inverse, c'est quelque chose de pas du tout évident, parce qu'il y a des habitudes, et c'est vrai que, alors moi je ne connais pas du tout Photoshop et très peu GIMP, mais c'est sans doute deux approches différentes en termes d'interface, et donc on peut être troublé quand on passe de l'un à l'autre. Est-ce qu'il y a des moyens de casser cette problématique quand il y a des gens qui arrivent sur GIMP? Est-ce qu'il y a des ateliers, par exemple, qui existent? Est-ce qu'il y a aussi des formations, par exemple, aujourd'hui sur GIMP, je pense aux formations pour les graphistes ou autres, est-ce que la formation à GIMP est intégrée dans ces formations?
Alors, il n'y en a pas beaucoup, je pense. Mais ensuite, ça arrive. Hein. On a dans notre association, notre réalisatrice, animatrice, enfin, qui fait un peu tout, Aliam Han, a donné, par exemple, des cours à l'université de Cergy-Pontoise. Alors, c'était sur 4 jours, je crois, à 2 classes. Voilà, c'était un programme de cours invité. Une des classes, c'était graphisme, parce que c'était la classe les infographistes, et une classe, c'était 3D patrimoine. Donc, eux, ils ont plus fait de la retouche, etc. Parce que bon, pour la 3D, on a besoin de vous savez, pour plaquer des textures, des choses comme ça. Voilà. Donc, ça arrive. Il y en a qui commencent ce programme-là ou d'autres à les enseigner à l'école, il y a peut-être des formations et de ça. Ensuite, c'est pas encore, faut pas se leurrer, hein, c'est pas non plus encore une habitude, ça s'améliore, mais alors il y en a certains qui ont mieux réussi, je crois Lionel en parlera plus tard, je crois, de Blender, et eux, ils sont déjà beaucoup plus implantés dans le milieu professionnel. Par exemple, quand on regarde les compétences Pôle emploi, sur les sites Pôle emploi, bon, bah, dans les compétences en général, ils mettent en fait des logiciels, des choses comme ça. Il y a Blender dedans, à côté des produits Adobe, etc.
D'accord, alors que dans le domaine de l'image, ce n'est pas le cas, c'est ça?
Il n'y aura pas GIMP dans la liste. Enfin, la dernière fois que j'ai regardé, il n'y avait pas GIMP dans la
liste.
D'accord,
il y aura Photoshop et...
Oui, il y aura Photoshop, il y aura et il y avait Blender, etc. Enfin, pas etc., juste Blender, je crois, en libre, c'est la seule chose que j'ai vue dans l'image, vidéo, etc. Donc, et certains, eux, ils commencent à être un peu plus enseignés, etc. dans les universités, dans des formes. Il y a pas mal de formations professionnelles aussi qui font du Blender, voilà. Mais sinon, ensuite, pour débuter, c'est vrai que ça doit être plus dur, je pense, pour trouver GIMP, faut le faire. Enfin, de toute façon, tous les logiciels, en vrai, même en formation, c'est pas vraiment là où on apprend. D'après moi, j'ai une vision assez particulière de l'université. Je pense que c'est l'étude pour moi. Enfin, l'utilisation.
L'utilisation. Oui. La pratique.
Donc, voilà, plus en pratique et plus. En fait, quand vous utilisez GIMP 8 heures par jour, 5 jours par semaine, tout devient facile. Enfin, tout. Les choses que vous utilisez le plus fréquemment. Ce qui est aussi l'un des points par rapport à ce qu'on. Quand on parle de l'habitude ou Photoshop, ce qui sera différent, c'est que même des fois qu'on a des fonctionnalités qui manquent, ce n'est pas forcément un problème, parce qu'en vrai, même un professionnel utilise une petite partie de... C'est des logiciels très très complexes, très très compliqués même.
Même les pros utilisent 5 ou 10% des fonctionnalités.
Oui, parce qu'en fait, chacun utilise en fait ce dont il a besoin. Ensuite, une fois qu'on est habitué, même s'il y a peut-être plusieurs façons de faire une même chose, on va souvent réutiliser les méthodes auxquelles on s'est habitué. Etc. Donc, c'est voilà.
D'accord. Lionel Alorge, tu disais que tu faisais beaucoup de photographie. Mm-hmm. Donc, dans le cadre de ton traitement de photographie, tu utilises GIMP ou tu utilises un autre outil?
Alors, ça dépend. J'utilise beaucoup GIMP. Mais GIMP a ses limites dans certains types de fichiers photos. Qui sont ce qu'on appelle du RAW, R-A-W, donc c'est le fichier le plus brut qui puisse sortir de l'appareil photo.
Mais c'est ce que produit directement l'appareil
avant d'être traité dans un format comme le JPEG, par exemple. Donc ça, des fois, GIMP n'arrive pas à lire correctement certains de ces fichiers RAW, parce que, bien sûr, chaque fabricant a sa propre idée de la manière dont ce fichier doit être composé.
Chaque fabricant d'appareil photo. D'accord.
C'est pas du tout normalisé comme le JPEG, par exemple. Ou le PNG, ou ce genre de format plus grand public.
Si je peux faire un commentaire, tu utilises quelle version de GIMP?
J'essaie d'être à jour, donc d'avoir les dernières en date, mais des dernières dans ma distribution.
Parce qu'en fait, maintenant...
Donc, c'est peut-être pas la dernière sortie.
Parce qu'en fait, la dernière de GIMP, donc les 2.10 et quelques, oui. 2.18 en l'occurrence là, depuis 2.10.0, en fait, pour le RAW, on utilise nous-mêmes d'autres logiciels. D'accord. C'est-à-dire qu'en libre, les deux principaux, c'est Darktable et RAW Therapy. Mm-hmm.
Est-ce que tu peux juste les répéter? Donc, Darktable. Et le deuxième?
RAW Therapy.
Donc, ça, c'est, voilà. pour traiter les fichiers RAW.
Voilà. D'accord. Je crois qu'on appelle ça des développeurs. C'est pour du développement, on dit développement numérique, comme si c'était un labo photo, quoi.
Okay.
Et en fait, maintenant, GIMP détecte si ces logiciels sont installés. Et s'ils sont installés, lance le logiciel. Si on en a les deux installés, on peut sélectionner les préférences, notre préféré. On peut traiter le fichier RAW là. Et une fois que c'est fini, ça revient dans GIMP.
D'accord.
Ce qui fait que, parce que c'est pas, en fait, effectivement, c'est pas du tout la spécialité de GIMP de traiter les fichiers RAW, c'est pas vraiment le. C'est pour ça qu'on se dit, il y a des trucs qui font. Il y en a d'autres logiciels qu'on connaît bien, d'ailleurs, leurs développeurs, on les voit tous les ans, etc. On utilise ces logiciels-là nous-mêmes, nous.
Alors, ça, c'est intéressant, cette remarque entre vous deux, parce que ça permet aussi de rappeler que c'est un peu la philosophie d'Unix aussi, d'avoir des outils qui font un domaine vraiment bien et qui se repose sur d'autres outils pour faire ce qu'ils ne maîtrisent pas. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est une question. Tu as parlé de version, tu as posé donc une question de version de logiciel qui est toujours évidemment importante. Donc j'ai deux questions. Est-ce que dans les distributions GNU Linux classiques ou même autres systèmes libres, est-ce que c'est la dernière version qui est généralement disponible, par exemple sur Debian, Ubuntu ou autre? Et ma deuxième question, ces outils dont on parle là, GIMP, Blender, et on citera peut-être tout à l'heure Inkscape, Krita et d'autres, ont aussi la particularité d'être multiplateformes, c'est-à-dire d'être disponibles aussi sur des environnements Windows, Microsoft Windows ou macOS. Est-ce que ce sont les mêmes versions sur ces trois environnements?
Alors,
à votre connaissance.
Nous, on fournit la même version,
oui.
Mais sauf que les distributions, eux, maintiennent leur propre build, leur propre version compilée. Et elles sont souvent en retard. En fait, ce qui est en retard, c'est, c'est qu'elles ont, ce système de version stable.
Oui.
Et en l'occurrence, pour GIMP, ce sera si juste avant, enfin, quand ils ont fait quand ils ont fait le gel des fonctionnalités, le freeze, si à ce moment-là, on avait encore la version 2.8, ce qui est le cas, par exemple, pour la Ubuntu stable à l'heure actuelle, par exemple, ils ont dit, on reste sur les 2.8. Or, 2.8, ça fait presque un an maintenant qu'on a plus de... que c'est, pour nous, c'est totalement déprécié et qu'on n'a plus de nouvelles sorties, de corrections de bugs, ni rien. Mais la version, la Ubuntu LTS, la long term release, utilise toujours une version totalement vieille. Voilà.
D'accord. Et donc, dans ce cas-là, la personne, tu lui conseilles d'installer la version la plus à jour à partir du site de GIMP?
Alors, voilà, maintenant, GIMP, on a, alors, c'est sous Linux, maintenant, il y a ces nouveaux types de paquets qui sont Snap ou Flatpak.
Ouais.
C'est, en gros, c'est des paquets qui peuvent marcher partout.
D'accord.
Voilà, il y a aussi AppImage. Alors, nous, GIMP, on fournit juste officiellement un Flatpak. Mais il y a des gens qui font aussi un Snap, ça c'est Ubuntu qui ont fait leur propre système. Et il y a AppImage, c'est un système plus ancien, mais qui est quand même un peu différent. Et en fait, s'ils n'ont pas dans leur distribution, il faut qu'ils installent un de ceux-là. Ou alors, il y a souvent les distributions, les PPA, je ne sais pas si vous connaissez.
C'est Ubuntu.
Voilà, ça c'est Ubuntu, pas en PPA.
Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais...
Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est des paquets, en fait, pareil, fournis par
d'autres
tiers.
Personnes, par des tiers, voilà. En fait, c'est pas des paquets... Oui, c'est ça, c'est pas des paquets officiels fournis par Ubuntu, voilà. Mais c'est pas des paquets fournis par des tiers.
Exactement.
Donc, en tout cas, au-delà de tous ces aspects, ces mots techniques, que sans doute les gens sont un peu perdus, moi, d'ailleurs, je n'ai pas forcément tout saisi dans le détail. L'important, c'est de se dire, s'il y a peut-être des fonctionnalités, en tout cas, de vérifier la version qui est disponible sur son environnement,
voilà.
Et de vérifier par rapport à la version officielle actuelle, par exemple de The Gimp, et je vous poserai la même question pour Blender, et éventuellement donc de mettre à jour, parce qu'effectivement, sur un certain nombre de distributions GNU Linux, notamment Debian, là, je venais de vérifier, en fait, moi, je suis sur une version qui n'est pas stable de Debian, c'est une version qu'on appelle de test, c'est la version 2.10 quand même de Gimp qui est installée.
Ouais, c'est la version de test. Ouais.
Voilà. Mais les personnes qui sont souvent sur une version stable, donc par exemple, chez moi, à la maison, les autres ordinateurs sont sur une version stable, donc c'est effectivement GIMP 2.8. Donc après, ça dépend des fonctionnalités qui sont requises. Hein. Pour beaucoup de gens, ça suffira, mais des fois, il faudra mettre la version à jour. Ma question, c'est par rapport à Windows et Mac, c'est... oui, tu as répondu, vous fournissez la version à jour. D'accord.
C'est plus facile, ils ont des installeurs, quoi. Ou Mac, un paquet DMG. Là,
d'accord. En tout cas, c'est important de savoir, c'est que les personnes qui aujourd'hui utilisent un système privateur, hein, que ce soit Microsoft, Windows ou macOS, peuvent tester GIMP. Et le jour où elles migreront vers un système entièrement libre, elles retrouveront GIMP et normalement la même version avec les mêmes fonctionnalités. Sur Blender, donc logiciel de vidéo, c'est un peu le même principe en termes de version.
Oui, alors Blender, c'est un logiciel qui a été créé dès le départ pour... les créateurs voulaient maîtriser leur interface. Donc en fait, l'interface, donc tout ce qui apparaît sur les fenêtres, a été défini à partir de zéro. Et donc, ça facilite. Donc, du coup, le logiciel n'est pas lié à un système d'exploitation. Il n'est pas lié, par exemple, à Windows ou à.
Ils n'ont pas utilisé une librairie, une bibliothèque de
fonctions.
De fonctions préexistantes pour construire leur interface. Ils sont repartis vraiment de zéro. Ce qui leur permet de le livrer pour toutes les interfaces.
Voilà, donc ça a permis assez facilement de faire des variantes, des versions pour chaque système d'environnement, non seulement les plus connus, donc macOS et Windows, mais aussi pour d'autres plus exotiques, Spark, des choses comme ça. Donc ça permet une grande variété d'environnements.
D'accord.
Pour GIMP, c'est marrant, c'est la même chose en fait. GIMP a créé son propre toolkit, le GTK.
C'est vrai, oui. Historiquement, en fait, qui après a été récupéré par GNOME notamment.
Par GNOME, etc. GTK, ça veut dire GIMP Toolkit.
Là. Alors GNOME, c'est un environnement de bureau disponible sur des environnements libres. Il y en a d'autres qui s'appellent K2E et autres. N'hésitez pas à aller dans les fêtes d'installation de logiciels libres ou aller voir des groupes d'utilisateurs et d'utilisatrices pour découvrir ça. Alors sur le salon, on nous apporte des contributions utiles parce qu'on cherchait ce que vous voulez dire PPA. Ça veut dire Personal Package Archive, donc une archive de paquets personnels, donc fournie effectivement par des tiers et non pas par Ubuntu. Alors, on va parler un petit peu aussi de Blender. Donc, Blender, historiquement, c'est pas un logiciel libre, si je me souviens bien, monsieur Lalorge.
Voilà.
Alors, donc, historiquement, c'est un logiciel privateur.
C'est ça. Alors, même au départ, il y a une notion qui est le fait que les premières versions ont été faites par une entreprise, au sein de l'entreprise, pour être utilisées en interne. Donc c'est ce qu'on appelait les logiciels à façon, c'est-à-dire ces logiciels qui ne sont pas destinés à être diffusés. Et quand le développeur a voulu commencer à diffuser son logiciel, il l'a fait dans une manière qui était à l'époque relativement classique, qu'on appelait le shareware, ou le partagiciel en français. C'est-à-dire que les gens pouvaient gratuitement récupérer le logiciel, l'essayer, et puis si ça leur convenait, à ce moment-là, on les encourageait à payer une certaine somme, et notamment ça leur permettait d'avoir des fonctionnalités supplémentaires, par exemple. Et donc c'est comme ça que Blender a commencé à se faire connaître du grand public. Mais donc c'est pas un logiciel libre, il faut bien insister sur la différence
Ce n'était
entre...
pas un logiciel libre.
Ce n'était pas un logiciel
Aujourd'hui, c'est un
libre,
logiciel libre.
c'est ça. Il faut bien insister sur la différence, c'est que le logiciel libre apporte donc les fameuses quatre libertés qu'un shareware n'apporte pas. Il n'y a que éventuellement la liberté zéro, c'est-à-dire celle d'utilisation, et encore, elle est limitée, comme on vient de dire, puisqu'il faut payer pour certaines fonctionnalités. Et donc, l'histoire est intéressante parce que du coup, ce logiciel a commencé a eu un certain succès, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de solutions, on va dire, entre guillemets, gratuites pour l'utilisateur. Donc il a été beaucoup utilisé, mais l'entreprise qui le diffusait, qui s'appelait Not a Number, une entreprise néerlandaise, en 2002 a fait faillite, parce que les gens qui avaient investi dedans ont constaté qu'ils n'arrivaient pas à gagner d'argent avec ce modèle économique. Et du coup, le logiciel, c'est le gros défaut de tous les logiciels qui ne sont pas libres, c'est qu'il risquait de disparaître, corps et âme, si on peut dire, puisque l'entreprise aurait été fermée, le logiciel disparaissait, puisqu'il n'y avait pas moyen de. On pouvait toujours avoir les exécutables, mais il n'y avait plus moyen de pouvoir intervenir dessus. Et donc, le développeur principal, qui s'appelle Ton Rosendahl, a donc essayé de sauver en quelque sorte son logiciel, en demandant aux investisseurs de le rendre
Libre.
public. Et donc, alors au début, en tout cas, au moins d'autoriser sa diffusion. Et là, les investisseurs ont dit, oui, mais nous, on veut revenir, enfin, on veut rentrer un peu dans nos frais. Et donc, ils ont demandé une somme assez importante de 100 000 euros. Donc, 100 000 euros, c'était le prix pour pouvoir rendre ce logiciel libre, pour pouvoir le diffuser sous licence libre. Et donc, personnellement, quand j'avais suivi un peu cette histoire et quand j'ai vu ce montant, je me suis dit, mais
Ça marchera jamais.
ça marchera jamais.
C'était en 2002, hein, on
2002.
rappelle.
Oui, j'étais très négatif parce que je me disais 100 000 euros, surtout pour des gens qui étaient jusque-là habitués à avoir ce logiciel gratuit sur Internet, hein. Et en fait, j'avais tort puisque la somme a été réunie très rapidement. Et en quelques mois, ils ont réuni les 100 000 euros. Et donc, le logiciel a pu, un, donc être publié sous licence libre, et en plus, ça a permis de créer une fondation, qui s'appelle donc la Fondation Blender, et qui permet aujourd'hui d'assurer l'avenir de ce logiciel, puisque ce logiciel continue à être activement développé, mais aujourd'hui, c'est grâce aux dons des utilisateurs que le système fonctionne.
Donc ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que ce travail fait par Ton Rosendahl a permis de libérer ce logiciel et qui en plus a permis une grande dynamique, parce qu'aujourd'hui, Blender est quand même très largement utilisé. Donc, comme le disait Géant tout à l'heure, il est même signalé dans les compétences proposées sur le site de l'ANPE, contrairement à TheGnip ou d'autres. Et que à l'époque, effectivement, on était un peu dubitatif sur la possibilité de réunir 100 000 euros pour. C'était 100 000 euros ou 100 000 dollars?
100 000 euros.
100 000
Oui,
euros
puisque
pour.
c'est une entreprise
Oui, c'est
néerlandaise, donc il y avait
effectivement,
déjà
excuse-moi.
l'euro en
Il y avait déjà
2001.
l'euro. Donc on était un peu dubitatif, mais ça a fonctionné. C'était en 2002, nous sommes en 2019, donc 17 ans après, ce logiciel continue à se développer, donc avec un modèle économique, comme tu le dis, de fondation qui est basé sur les dons des utilisateurs, ce qui nous permettra de. Après la pause musicale, de parler un petit peu du modèle de The Gimp, mais peut-être que Géant, tu voulais rajouter quelque chose avant la pause musicale.
Je voulais juste dire en fait que c'est, enfin, un ami me disait ça, que c'était le premier crowdfunding sur Internet a priori de l'histoire, avant toutes les plateformes de crowdfunding en fait.
Alors, c'est possible, je ne sais pas du tout, effectivement,
Parce
on
que
vérifiera.
c'est parce ouais, parce que c'est très très vieux et à l'époque il y avait pas personne faisait de crowdfunding sur Internet, en tout cas, hein, c'est autre chose, un
Oui.
financement. Voilà. Donc c'est assez intéressant de ce point de vue-là historique.
Tout à fait, oui. Alors, après la pause, on parlera un peu de GIMP et aussi du fonctionnement économique et puis du travail de Géant Pagès au CNRS sur The GIMP, justement. Donc, on va faire une pause musicale. Nous allons écouter Requiem for a Fish par The Freak Fandango Orchestra et on se retrouve juste après.
Cause commune.
D'écouter Requiem for a Fish par The Freak Fandango Orchestra. Les références sont sur le site de l'April. C'est toujours de la musique libre. Et vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 et partout ailleurs sur causecommune.fm. Avant la pause, nous discutions de Blender, logiciel privateur de vidéos devenu en 2002 suite à un lancement de financement participatif pour un montant de 100 000 euros, un logiciel libre aujourd'hui qui est très utilisé en plein développement. Nous allons revenir sur la vidéo après pour parler d'un autre logiciel qui s'appelle KD1 Live qu'utilise donc Lionel Allorge. Mais avant cela, on va revenir sur GIMP et un petit peu le fonctionnement justement du modèle économique de GIMP, comment il se développe et aussi pour savoir un petit peu comment se fait-il que Géant Pagès est payé par le CNRS pour développer sur GIMP. Donc Géant, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça ?
Voilà, alors, déjà GIMP lui-même n'a pas vraiment de modèle économique. C'est un logiciel entièrement communautaire. On peut faire des donations parce qu'ils utilisent... Alors, Gnome est né de GIMP, mais maintenant Gnome, ils ont plein de sous, ils ont une fondation, etc. Et en fait, GIMP, on va dire un compte, entre guillemets, chez Gnome. Donc, on peut donner, en fait, pour GIMP, par l'intermédiaire de Gnome. Mais cet argent n'est utilisé que pour, par exemple, du matériel, pour les contributeurs, et puis aussi pour tous les ans les faire se rencontrer, notamment au Libre Graphics Meeting, qui est une conférence annuelle de logiciels libres pour le graphisme. Choses comme ça. Mais ça ne peut pas payer, comme il n'y a pas vraiment d'entité légale pour GIMP, ça ne paye pas de salaire ni rien de ce genre.
Donc c'est principalement du développement communautaire bénévole.
Voilà. D'ailleurs, le mainteneur principal. On est en gros trois gros développeurs chez GIMP à l'heure actuelle. Donc il n'y a vraiment pas grand monde. Et des petits patchs et de ça d'autres gens, mais on est trois à faire la plupart des choses.
Et les deux autres sont situés où physiquement ?
Alors, le mainteneur, Michael Natterer, Mitch, il est en Allemagne. Alors lui, il a une librairie.
Donc, d'accord.
Voilà, donc lui, son boulot, je sais pas, parce qu'il développe beaucoup, hein, et je sais pas comment il fait, parce qu'il a des employés, etc. Et entre deux livres qu'il vend, je sais pas, il fait des patchs. Voilà. Et on en a un autre qui s'appelle LELL. On ne sait pas son vrai nom, on ne sait pas où il est, on ne s'est vraiment jamais vu. Et on pense qu'en plus, il est très très fort, donc on pense que c'est un robot ou un alien, quelque chose comme ça. Voilà.
D'accord. Et donc toi, tu fais partie de ces trois-là. Donc c'est une petite, finalement, communauté de principaux développeurs. Voilà. Et je suppose qu'il y a des petites contributions à côté.
Voilà, voilà. Ensuite, bon, je ne sais pas tout à fait juste, il y a un peu plus parce qu'il y a aussi, maintenant, GIMP et son moteur graphique se sont, on va dire, séparés. On utilise Gaggle, qui est le moteur graphique de GIMP et qui lui-même a plusieurs développeurs qui travaillent beaucoup.
D'accord.
Et vu qu'on utilise, c'est notre moteur graphique, évidemment, si on comptait, ça ferait, au moins un développeur de plus que le mainteneur de Gaggle. Voilà.
D'accord, ok. Et donc, toi, à titre personnel, en plus de ta contribution donc bénévole en développeur de GIMP, aujourd'hui, tu es au SNRS pour travailler en partie sur GIMP ou totalement sur GIMP ?
Totalement.
D'accord. Qu'est-ce que tu fais là-bas ?
C'est juste un contrat d'un an.
Ouais.
Là, je sais comment ils appellent ça, ingénieur, je sais plus quoi. Enfin, c'est donc un CDD. Et en fait, à l'origine, alors c'est une équipe, un labo à Caen, qui eux-mêmes développent un logiciel libre qui s'appelle GMIC. Enfin, je sais pas si c'est... Moi, je dis GMIC, ouais. Mais je crois qu'ils disent GMIC. Donc c'est G-MIC. Et qui est, je pense, je me suis à peu près sûr, le plugin le plus utilisé, le plus téléchargé de GIMP. Il est vrai, parce qu'en fait, ils ont... c'est toute une plateforme... Alors, c'est aussi séparé, quoi. Ils ont aussi, d'ailleurs, je crois, on peut l'utiliser par la ligne de commande, etc. Et GMIC a des centaines de filtres. Et c'est une plateforme, en fait, pour créer des filtres. Je crois et pour tester, en fait, ils testent, ils font des papiers de recherche, etc. Voilà.
Donc, c'est des spécialisés, des spécialistes, donc des chercheurs spécialistes en traitement de l'image.
Voilà, tout à fait.
Qui développent donc un greffon à GIMP qui peut être utilisé aussi, comme tu le dis, en ligne de commande, c'est-à-dire tout seul, pour appliquer des filtres divers et variés à des images.
Exactement.
Et donc, toi, tu es embauché pour un an pour travailler là-dessus.
Voilà. Alors, non, en fait, moi, non. je. Alors, au tout début, ils voulaient m'embaucher pour faire un plugin Photoshop. pour GMIC, et je leur ai dit non, que ça ne m'intéressait pas vraiment. Et finalement, ils ont dit, ils ont changé le truc, et puis ils ont fait, parce que je travaille en fait sur l'amélioration de l'architecture en fait, pour installer des plugins dans GIMP. À l'heure actuelle, c'est encore un peu à l'ancienne, on prend un zip sur Internet qu'on met dans un dossier, et puis
pour faciliter l'installation d'un greffon sur son ordinateur.
Exactement.
D'accord.
Et notamment, l'idée serait plus à la Firefox ou autre, c'est-à-dire on peut chercher des extensions, on peut les installer.
On clique sur un bouton.
Voilà. Et en fait, ça les intéressait parce que ça permet aussi ça d'étendre, enfin de faire mieux connaître Gmic, etc. Et puis donc ils ont été intéressés par ça. Et puis ensuite j'ai commencé. Moi, comme je sais qu'ils font plein d'algorithmes vachement intéressants, dont un qu'on appelle la colorisation intelligente. Ça aussi, ça m'a intéressé. En fait, on en a discuté. Et puis j'ai un premier projet que j'ai fait déjà dans le cadre de mon contrat et qui est fini, parce que ça va sortir, je pense, d'ici quelques jours dans la prochaine version de GIMP, c'est d'implémenter la colorisation intelligente dans GIMP. C'est des algorithmes pour, en gros, voir s'il y a des... Quand, je ne sais pas si vous savez, quand on colorie dans un espace fermé, on peut colorier à l'intérieur, mais par exemple, s'il n'est pas bien fermé, la couleur va sortir. Et ben là, en fait, ça permet, en fait, c'est de deviner que là, il faut relier.
Il faut relier pour fermer.
Il faut fermer, ouais. Voilà.
D'accord.
C'est un peu l'idée.
D'accord.
Donc, voilà, c'est ça. Et donc, c'est... Bon, je pense que c'est un très bon usage de l'argent public parce que ça permet d'améliorer les logiciels libres. Et donc, c'est assez cool. C'est un
très bon... Ah oui, j'imagine bien. En tout cas, c'est effectivement un bel usage de l'argent public. Et on espère que plus d'argent public peut être utilisé dans ce cadre-là, c'est-à-dire de développement de logiciels libres. Donc, Lionel, alors, tu voulais ajouter quelque chose?
Oui, juste, j'avais rencontré les gens qui développent donc, ce plugin. Et alors, ça peut sembler comme ça bizarre qu'une université développe ce genre de choses. Mais en fait, il y a certes un aspect créatif, mais il y a aussi un énorme aspect scientifique. C'est-à-dire, beaucoup de ces plugins sont utilisés pour traiter des fichiers issus de la recherche, avec des algorithmes, des fois vraiment très sophistiqués, qui sont mis en œuvre dedans. Et donc, c'est justifié, me semble-t-il, qu'une université... française développe ça, et en plus ça va bien avec le modèle universitaire d'ensuite de le diffuser comme un logiciel libre.
Tout à fait. Mais... alors Lionel, tout à l'heure tu nous as parlé de Blender, donc de son modèle économique, enfin de son modèle économique, de son modèle de libération et d'aujourd'hui l'aspect fondation. Donc Blender, c'est un outil de création de vidéos, mais c'est pas le seul qui est utilisé. Il y en a d'autres. Et toi, je crois que tu utilises beaucoup un logiciel qui s'appelle KDNLive. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
Oui, c'est ça. Alors, KDNLive, c'est un logiciel pour faire du montage vidéo. Donc, l'idée, c'est d'avoir fait des images animées, donc typiquement tournées avec une caméra ou de nos jours avec un téléphone. Et on veut pouvoir rassembler ces images pour faire un tout cohérent, pour faire quelque chose d'intéressant. Et l'idée, c'est qu'il faut un logiciel qui permette de couper dans toutes ces images, de les assembler correctement, éventuellement d'ajouter des effets de transition, par exemple, pour passer d'une séquence à une autre. Et puis, pourquoi pas, pour ceux qui s'en sentent l'âme, d'ajouter carrément des effets spéciaux, d'ajouter des manipulations de l'image. Par exemple, des filtres, comme ceux qu'on vient d'évoquer, mais au lieu de les appliquer à des images fixes, on peut les appliquer à une image animée, par exemple. Et donc ça, ce logiciel est maintenant bien au point. Je crois qu'on en a la version 18 actuellement. C'est quelque chose qui est développé de manière active. Et c'est un logiciel qui permet des résultats vraiment au niveau professionnel. C'est-à-dire que ça peut manipuler à peu près tous les fichiers vidéo disponibles. Et ça permet de faire des montages sophistiqués avec plusieurs couches d'images, plusieurs couches de sons, ce genre de choses.
D'accord, mais alors, si quelqu'un demain doit faire du montage vidéo, entre Blender et KDNLive ou autre outil logiciel libre de montage vidéo, est-ce qu'il y a des vraies différences? Pourquoi tu préfères, toi, KDNLive plutôt que Blender, par exemple?
Alors, Blender est un logiciel qui, au départ, est fait pour créer des images virtuelles qu'on appelle 3D.
D'accord.
Et donc, il inclut un module de montage vidéo.
Ok, ah oui, donc c'est pas la même fonctionnalité.
C'est une sous-fonctionnalité, sans que ça soit péjoratif. Ce module marche plutôt bien, mais il est quand même limité dans ses capacités. Mais l'énorme intérêt, c'est que comme il est dans le même logiciel, il s'interface très bien avec les objets en 3D. C'est-à-dire que si on a conçu des objets en 3D d'un côté dans Blender, qu'on a fait une petite animation, on peut monter cette animation facilement tout en restant dans le logiciel Blender et donc dans un logiciel dont on maîtrise l'interface normalement. Alors que KDNLive est fait pour traiter plutôt des fichiers qui ont été tournés avec des caméras vidéo et qu'il faut monter pour pouvoir faire quelque chose d'intéressant. Et donc, j'aurais tendance à dire que quelqu'un qui a besoin de faire du montage vidéo un peu sophistiqué a plutôt intérêt à prendre un outil spécialisé.
D'accord, donc effectivement, j'ai exposé au monde entier mes connaissances de Blender et Kdenlive, parce que je pensais que c'était un peu la même chose, mais pas du tout. Donc je vois évidemment l'intérêt de Kdenlive. Et donc pour Blender, c'est pour les personnes qui veulent plus effectivement faire de la création d'objets animés 3D, qui nécessitent peut-être des compétences un peu plus compliquées, parce que enfin, j'imagine que créer des objets comme ça, il faut un talent supplémentaire ou pas du tout. Est-ce que n'importe qui peut se lancer avec quelques tutoriels pour créer des images, par exemple?
Non.
Enfin, non.
Ah, c'est compliqué.
C'est compliqué.
Oui, enfin. Ouais, c'est, oui, enfin...
Alors déjà Lionel, vas-y, et après on parlera de l'expérience de géant avec notamment aussi The Marmot et Lila.
Alors, l'idée générale, c'est que les logiciels dits de 3D, donc qui permettent de générer des images complètement artificielles par calcul, sont des logiciels très compliqués à prendre en main. Bien sûr, il y a quelques petites choses qu'on peut faire de manière assez simple. Faire une petite animation dans Blender d'un objet qu'on a récupéré dans une bibliothèque, par exemple, peut se faire relativement facilement. Il y a pléthore de tutoriaux, y compris en vidéo, hein, qui sont disponibles sur Internet. Mais il y a ce qu'on appelle une courbe d'apprentissage qui est assez élevée. Il ne faut pas espérer faire des dessins animés type Pixar demain matin avec Blender. C'est pas possible. Donc ça demande de s'y investir et d'y investir du temps. Comme disait Jean tout à l'heure, voilà, plus on l'utilise... Plus on le maîtrise, mais on ne peut pas passer l'étape de l'apprentissage.
D'accord. Donc, Géant, toi dans ton... on va revenir sur le côté bénévole. Tout à l'heure, en introduction, tu parlais de The Marmot, de l'association Lila. Alors, c'est peut-être l'occasion de nous présenter The Marmot et l'association Lila et de l'usage donc, de ces outils, que ce soit GIMP ou autre, dans le cadre de ce projet.
Voilà, alors, The Marmot, c'est un film d'animation, mais alors c'est en 2D, donc c'est dessiné. C'est pour ça qu'on utilise GIMP. On utilise Blender aussi, mais pour la partie édition vidéo essentiellement, donc pas vraiment pour la 3D, même si on pourrait, parce que des fois, de nos jours, il y a beaucoup de 2D, 3D. Mais... voilà, donc c'est comme ça moi, que j'ai commencé surtout à beaucoup développer GIMP. C'était à l'origine, c'était pour commencer à faire quelques petits projets comme ça, parce que je connais Ariam Han qui fait de l'animation, qui elle est professionnelle, enfin elle était à l'université, elle a étudié l'animation, puis ensuite elle a travaillé un peu, et puis on a commencé à essayer un peu de l'utiliser, mais au tout début, la première fois que j'ai utilisé, que je lui ai montré GIMP, moi je connaissais pas tellement que ça, pas plus que ça, et ça a planté, je crois qu'en débranchait, c'était un des premiers patchs que j'ai fait, parce qu'en débranchait la tablette graphique, ça plantait... Enfin, juste comme ça, quoi. C'était pas vraiment utilisable. Et puis, en fait, j'ai commencé à faire des patchs et à en faire de plus en plus. Et ce qui fait que de nos jours, je suis l'un des principaux développeurs. Mais au début, c'était ça. C'était parce qu'on l'utilisait. Et justement, nous, on aime bien l'idée un peu dans notre association. C'est que finalement, on crée nos propres outils. On utilise nos... Enfin, et aussi, on les améliore vraiment par rapport à un usage réel. C'est-à-dire comme en fait tous les jours on
êtes confronté à la réalité de la création graphique et donc vous adaptez l'outil.
Exactement, voilà. Donc tous les jours c'est Allium l'utilise et elle se plaint, elle dit ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, et puis bon je corrige ce que je peux, etc. Et j'améliore, et on a aussi fait beaucoup de fonctionnalités qui depuis pour améliorer différents points. Voilà, et ça continue. Et alors, l'animation, c'est un peu particulier, parce qu'effectivement, en plus, GIMP, c'est pas un logiciel d'animation. À l'époque, il y avait de toute façon pas de logiciel. Quand on a commencé, il n'y avait aucun logiciel. Maintenant, il y en a quelques-uns qui commencent à avoir des modules d'animation, voire certains ont été libérés. Il y en a un qui avait été utilisé par les studios Ghibli, hein, qui a été libéré. OpenToons, hein, donc on en a entendu pas mal parler ces dernières années. Mais à l'époque, il n'y avait rien, donc on utilisait un logiciel... de dessins, et on rajoute, en fait on a un plugin, j'ai développé un plugin pour organiser les dessins en animation, voilà, on va dire, voilà, que j'appelle GIMP Motion, qui devrait sortir un jour, mais là je sors pas encore avec, mais il est public, le code source est public, c'est dans les dépôts, dans une branche dans les dépôts de GIMP. mais on ne le sort pas dans, en version stable encore, parce que je ne le trouve pas très stable, en fait. Même si nous, on l'utilise tous les jours. Voilà.
D'accord. Et cette association, vous avez des financements? C'est du travail uniquement bénévole ou
Oui, c'est, on a du financement, pas énormément, mais on en a un peu. Et en fait, c'est quelque chose qu'on veut vraiment faire, justement, c'est professionnaliser cela. C'est-à-dire que c'est pas juste pour faire des petits projets amateurs. Et donc, on paye à l'heure actuelle Allium avec le financement... mensuel, hein, c'est un financement mensuel.
Via une plateforme particulière ?
Plusieurs plateformes, en fait. On est sur Patreon, Tipeee, LiberAP. Voilà. Et puis, il y a des gens qui donnent aussi directement à l'association. Vous pouvez aller voir sur le site, c'est libreart.info. Voilà. Donc, et les gens, en fait, parce qu'il y a, en fait, il y a pas mal de. Il y a plusieurs centaines de personnes, hein, qui. Bah, parce qu'on améliore énormément le logiciel d'une part, et parce qu'on fait un film qui lui-même sera libre, hein, le film Licence Creative Commons by Essay, donc c'est un peu comme la GPL.
C'est partage à l'identique.
Voilà, tout le monde peut le télécharger, l'échanger, etc. Le modifier, on donnera même tous les fichiers, sources, etc. à la fin, pour que les gens en font ce qu'ils veulent.
Voilà. D'accord, donc c'est libreart.info, et donc les sites que tu as cités, c'est des sites de soutien financier mensuel où des gens peuvent donner mensuellement une petite somme à différents projets.
Tout à fait. Ils peuvent chercher The Marmotte dessus et ils nous trouveront.
The Marmotte avec un Z.
The Marmotte avec un Z, Z-E-M-A-R-M-O-T, voilà, sur Patreon, Tipeee, LiberAP, on y est. Et puis, voilà, si les gens veulent aider à améliorer GIMP... Et à sortir un film d'animation très sympa où vous pouvez voir, vous verrez quand vous allez sur les pages, c'est très joli. Voilà.
On a cité quelques logiciels libres images, vidéo, mais il y en a plein d'autres. On fera sans doute d'autres émissions. Donc, on n'a pas cité, par exemple, pour la PAO, la publication assistée par ordinateur Scribus. Pour le dessin vectoriel, il y a Inkscape. Il y a aussi Krita pour le traitement d'images, je crois.
Krita, ils sont spécialisé sur le dessin.
Alors, Krita spécialisé sur le dessin, d'accord.
Voilà, en fait, quand je disais GIMP, il est générique. Ouais. Et Krita, ils ont décidé de se spécialiser. Ils disent c'est pour du dessin. C'est pour de la peinture numérique. Voilà.
D'accord. Alors, les personnes qui voudraient s'y mettre, est-ce qu'il y a des tutoriels qui existent sur le web? Est-ce que vous avez des conseils? Est-ce qu'il y a des ateliers qui existent ou des structures spécialisées qui peuvent faire de la formation ou de l'initiation? Parce que tout à l'heure, on parlait de Blender et la prise en main de Blender, ce n'est pas forcément évident. Est-ce que vous avez des conseils à donner pour les personnes qui nous écoutent?
Alors, pour Blender notamment, comme c'est justement complexe, il y a régulièrement des ateliers qui sont organisés. Ça, c'est pour ceux qui veulent s'essayer à ça. Donc, le conseil qu'on peut donner, c'est d'aller sur un site qui s'appelle l'Agenda du Libre.
Agendadulibre.org.
Où ils vont pouvoir chercher dans leur région des ateliers, notamment sur Blender, qui sont souvent organisés lors d'événements autour du logiciel libre. Et notamment à Paris, régulièrement, il y a des ateliers qui sont organisés dans le cadre de ce qu'on appelle le premier samedi du libre. Donc, ça se passe à la Villette.
La Cité des sciences et de l'industrie, donc chaque premier samedi du mois.
Samedi du mois, l'après-midi. Et là, il y a régulièrement un groupe d'utilisateurs de Blender qui s'appelle le BUG, donc le Blender User Group, qui se réunit et qui peut aider les gens et notamment mettre un peu le pied à l'étrier. Et après, si des gens veulent se spécialiser, alors il y a des formations beaucoup plus, on va dire, professionnalisantes, mais qui sont à ce moment-là payantes.
D'accord. Alors, sur le salon, on nous signale un site web qui est sur YouTube, avec donc des vidéos, des tutoriels en vidéo pour Inkscape et GIMP. Donc, c'est Charlotte Boulanger, qui ne pouvait pas assister à l'émission finalement, mais qui nous suit quand même, qui nous signale ces tutos. Donc, on va les rajouter sur la page de référence sur le site de l'April. J'en profite aussi pour citer un autre type de structure qui sont les espaces publics numériques ou toutes les structures de médiation numérique. Dans beaucoup de villes, il y a ce qu'on appelle les cyberbases ou des espaces publics numériques où souvent il y a des formations, alors peut-être pas Blender, mais GIMP à minima, Inkscape et Scribus. Géant, tu veux rajouter quelque chose?
Oui, alors c'est surtout pour la photographie. Il y a une très bonne communauté sur le web. Et il faut parler anglais. C'est Pixels Us, pixls.us.
Donc pixels.
Voilà. Voilà, pixls.us. Voilà, c'est Patrick David c'est celui qui nous a fait le site web de GIMP d'ailleurs, c'est un très gros contributeur, c'est pas un développeur mais c'est vraiment un très gros contributeur quand même et qui fait aussi cette communauté et c'est une très grosse communauté de et très bien et au niveau qualité c'est vraiment très sympa pour les photographes.
Eh bien, très bien, on va rajouter ces références sur le site. Je vais rappeler aussi que dans le SOC interministériel des logiciels libres, donc conseillé dans l'administration, donc la version 2018, parce que malheureusement la version 2019 n'est toujours pas en ligne, certains de ces logiciels sont cités, donc il y a notamment Scribus, Avidemux, dont on n'a pas parlé, mais qui fait du montage vidéo, Inkscape, The Gimp, et évidemment, côté lecteur multimédia, le célèbre, évidemment, VLC, dont nous avons déjà parlé dans une émission. Géant Pagès, Lionel, alors, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose, quelques mots de conclusion, Lionel?
Mais en tout cas, y a moyen de faire beaucoup de choses avec des logiciels libres. Hein. C'est-à-dire que souvent dans le monde créatif, il y a quelques grands noms qui se sont imposés, on les a cités en début d'émission. Mais en fait, aujourd'hui, il y a vraiment moyen de faire beaucoup de choses. Alors, c'est souvent juste un problème de passage, de sortir du monde privateur, faire l'effort de passer au monde libre. Et comme le disait Jean, c'est surtout le problème, c'est surtout d'accepter de passer du temps sur un logiciel. Tous ces logiciels qu'on vient de citer sont des logiciels sophistiqués, et donc il faut y passer du temps, et ensuite on finit par maîtriser les outils.
Ce qui sera pareil sur un logiciel propriétaire.
Exactement. Exactement. Et on profite, moi qui, en faisant l'émission de radio, j'ai redécouvert Audacity, il y a une certaine prise en main, et on découvre des choses absolument fantastiques, des filtres, etc. Géant Pagès, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose ?
Je pense que ce que Lionel a dit, c'est très bien. Mais de manière générale, oui. Voilà, de manière générale, les professionnels peuvent utiliser le logiciel libre pour la plupart des choses au niveau graphisme et vidéo, etc. Il y a quelques manques, mais en tout cas, sur les logiciels qu'on a cités, donc pour ce qui est tout ce qui est 2D, 3D, ça c'est vraiment. Je pense qu'il y a de quoi faire. Il y a vraiment, on peut être professionnel et il y a pas mal de professionnels déjà. Voilà.
On aura l'occasion sans doute de refaire une émission, je pense notamment avec notre graphiste à l'April bénévole, Antoine Bardelli, qui lui-même, dans le domaine professionnel, utilise beaucoup de logiciels libres pour son travail et qu'on aura sans doute l'occasion d'en discuter. Mais c'est effectivement un point très intéressant et important de préciser qu'on peut utiliser ces logiciels libres qu'on a cités dans le monde professionnel. Après, il peut y avoir des contraintes, mais on aura l'occasion d'en reparler dans une prochaine émission. En tout cas, je vous remercie, donc Géant et Lionel, d'avoir participé à cette émission.